Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Copéglon, votre magazine 100% OGC Nice sur BFM Nice Côte d'Azur. 19e défaite de la saison du gym concédée sur la pelouse du Paris FC 1-0. Autant vous dire que c'est une habitude de commenter des défaites cette saison. Le PFC qui n'avait plus gagné à Jean-Bouin depuis le 3 octobre dernier et qui restait sur une série d'une victoire sur les 12 derniers matchs de Ligue 1. Antoine Comboiré qui aime décidément affronter l'OGC Nice, invaincu sur ses 7 dernières confrontations face au gym actuel 15e de Ligue 1 et premier non relégable. Pour nous en parler ce soir autour de ce plateau de Copéglon, Nanino, Nico, notre chroniqueur habituel de l'émission. Bonsoir Nico.
Bonsoir, bonsoir à tous. On partage encore une défaite, hein, mais ouais. On est quand même content d'être là.
Et surtout qu'il y a une bonne nouvelle quand même dans le monde, dans la sphère OGC Nice, c'est cette qualification du gym face à Guingamp.
Ouais, le parcours continue pour la Gambarde, c'est une super nouvelle. C'est même, je trouve, la fierté de la saison pour le club, le centre de formation et notamment cette équipe de Gambardella. Une victoire probante 4-0 à Guingamp.
On voit les buts hein, à l'écran.
C'est une super génération, je pense, qui mérite vraiment tout notre soutien, tout notre suivi. Et si l'équipe première nous déçoit sur beaucoup d'aspects, je pense qu'eux montrent le bon visage et le bon côté de l'OGC Nice.
Ouais, qualification en quart de finale pour les garçons de Raphaël Kosmidis. Les buteurs, on va vous les donner. Yacine Aïch, Zinedine Asni, Djibril Koulibaly aussi, qu'on avait vu titulaire à Benfica lors du match du retour du préliminaire de Ligue des Champions et à Ludogorets également. John Mason Télusson pour le quatrième but, tirage au sort du reste de la compétition ce jeudi à midi, retransmis en direct sur la chaîne YouTube de la FFF. Il ne reste que des équipes de niveau national dans cette coupe Gambardella. On a fait le point, c'est important de le dire, sur les jeunes de l'OGC Nice qui font plaisir. Un autre membre du centre de formation de Copéglon, c'est Guillaume Grasso qui est avec nous, journaliste, suiveur du gym. Comment ça va, Guillaume?
Bonjour Samuel, bonjour à tous. Bah, ça va très bien, malgré les résultats un peu décevant de l'OGC Nice. On espère rapidement... Oui, j'essaie de rester un petit peu optimiste. Ouais. Mais oui, on espère que cette équipe va imiter les jeunes. Mais pour l'instant, c'est décevant. J'ai eu l'impression de revoir la même équipe qu'il y a deux mois.
Stéphane est avec nous.
Bonsoir Samuel.
Supporter du gym.
Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Toujours un plaisir d'être avec vous.
On est très très heureux de vous compter parmi nous, mon cher Stéphane. Au sommaire de cette émission, le débrief de la rencontre entre le Paris FC et l'OGC Nice, ce sera en première partie, deuxième partie dédiée au top flop et puis au focus du soir, spécial quart de finale de Coupe de France. L'OGC Nice se déplace chez le 10e de Ligue 1, le FC Lorient, mercredi soir à 20h30, la dernière chance de vibrer cette saison avant de se reconcentrer sur la mission maintien. Voyez-vous le gym arracher sa qualification? Mes invités en débattront dans ce 27e épisode de la 5e saison de Copéglon. On va commencer par débriefer ce Paris FC Nice en prenant tout de suite la direction du stade Jean-Bouin. Les images de ce match comptant pour la 24e journée. La première situation, elle est pour le gym sur ce centre de Jonathan Clauss. Pour Tom Loucher, ça passe à côté des buts de Kevin Trapp au quart d'heure de jeu. Contact entre Ilan Kebal et Kevin Carlos. Monsieur Hakim Benelhadj indique le point de pénalty. La VAR n'est pas de cet avis. Il a demandé la vérification de l'arbitre de la rencontre qui se déjugera. Il donnera même un carton jaune à l'attaquant espagnol. De l'autre côté du terrain, Moses Simon qui va tenter sa chance de l'extérieur de la surface. Maxime Dupé se trouve et Marshall Mounetzi, vous l'avez vu, qui va débloquer le compteur pour le Paris FC. La réaction de l'OGC Nice, elle va avoir lieu par séquence, mais qu'importe, défaite 1-0. Une seule victoire en championnat pour le gym sur les 14 dernières rencontres de Ligue 1. Messieurs, petit point arbitral, comme quasiment chaque soir cette saison. Première situation litigieuse, vous l'avez vu juste avant, ce contact dans la surface entre Kebal et Kevin Carlos. Pénalty ou pas sur cette action, Nico?
Il y a pénalty, évidemment. On ne montre pas les bons angles à l'arbitre. Il reste devant l'écran de la VAR 3 secondes et demie. Donc évidemment que si on ne lui montre pas les bons exemples, il ne s'y fera pas pénalty. Il y a un communiqué qui est sorti peu de temps avant l'émission. Ouais. Je le trouve parfait de A à Z. Parce que encore une fois, on ne se déresponsabilise pas sportivement. On n'est pas au niveau, ça, il n'y a aucun problème. Mais l'un n'empêche pas l'autre. À un moment donné, il y a des décisions arbitrales qui ne sont pas normales depuis de nombreux matchs. Et c'est toujours contraire à l'OGC Nice. L'arbitrage sur Kyle Bouda, j'en parle même pas. Ça fait deux pénalties oubliées sur lui après le match contre Lyon. Et puis, encore une fois, on subit les choses et rien ne change.
Vous parliez du communiqué, on va vous lire un petit extrait. Il est sorti juste avant l'émission. Nous ne cherchons pas d'excuses, nous assumons nos responsabilités sportives, mais entre la J20 et la J24, des situations similaires ont été jugées de manière totalement différente. Comment expliquer une telle variation d'interprétation en si peu de temps? Comment demander à nos joueurs d'adapter leur comportement lorsque la lecture des mêmes faits de jeu évolue d'une journée à l'autre? Les images existent, elles sont objectives, elles méritent une analyse cohérente. Il y a une réaction à ce communiqué cinglant de l'OGC Nice.
Le communiqué évoque des faits qui sont, moi je trouve, justes. Le pénalty ce week-end, pour moi il y est. Sur les semaines précédentes, il y a eu des situations aussi litigieuses. Oui. Mais est-ce que faire un communiqué va faire vraiment avancer les choses? Est-ce qu'un jour un communiqué a vraiment eu un poids, de l'influence sur les décisions arbitrales futures? C'est un peu râler dans le vent pour moi, même si ça part d'une bonne intention et que c'est plutôt juste.
Je voyais Stéphane qui disait 2-2-2, parce qu'il y a une autre situation litigieuse. Quel boutage
autant la faute sur Carlos, elle est un peu, on va dire, il y a faute, il y a pénalty. C'est un peu litigieux, on va dire. Autant sur Boudache, la faute, elle est flagrante. Il y a la jambe.
Rappel déséquilibré par Moses Simon. L'ailier du gym aura droit lui aussi à son carton jaune pour simulation. Il y avait les éléments, oui, pour
le pénalty.
Pour donner le pénalty pour vous,
oui. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr.
Mais ce qui d'accord est fou, aussi.
C'est... Ben, ce qui est
moi,
fou, c'est qu'encore une fois.
Je suis pas d'accord avec ça. Non,
c'est vrai.
Pas pénalty sur Boudache.
Ben, il arrive par derrière, il le déséquilibre.
Pour moi, c'est Boudache qui va prendre la jambe du.
Si vous regardez bien les images, on voit bien qu'il y a une jambe.
J'ai bien regardé ces images.
Moi, ce que je comprends pas, c'est encore une fois le degré d'interprétation et à quel. Où se situe le curseur quant à l'erreur manifeste. C'est-à-dire qu'il siffle la vitesse réelle sur Kevin Carlos. Est-ce que son erreur elle est suffisamment grande pour revenir et se déjuger? Et il se déjuge en quelques secondes. Et pourtant, le contact, il y est quand même. Donc en fait, il estime que Kevin Carlos, de par son gabarit, se laisse tomber trop facilement. Mais à l'inverse, il estime que Kyle Boudache, de par son gabarit, en rajoute. Donc c'est incohérent de A à Z. Et c'est ça qui me rend dingue.
Est-ce qu'il y a un Boudache bashing pour vous, messieurs, par les arbitres de notre championnat? Claude Puel, lui, il n'est pas loin de le penser. Je vous propose de l'écouter.
Je regrette qu'il ait... qui soit très mal perçu par l'arbitrage, sous prétexte d'avoir un petit gabarit comme lui. C'est un petit lutteur, c'est un petit dribbleur. Il n'a pas le droit de jouer parce qu'on met une épaule, on le retient, mais ça compte pas. Là, on met un pied, ça compte pas. C'est toujours simulation.
Il n'a pas le droit de jouer, Guillaume. Ce sont les mots forts de Claude Puel en conférence de presse après match. Vous êtes d'accord avec Claude Puel?
C'est vrai que les interprétations avec Boudache, ça peut être parfois compliqué parce qu'il est petit, il a un petit gabarit. Après, moi, quand j'ai un doute, je me pose toujours la question, est-ce qu'en Ligue des Champions, est-ce qu'en Ligue Europa, est-ce qu'en Coupe d'Europe, l'arbitre aurait sifflé pénalty sur Kevin Carlos, peut-être, sur Boudache, je pense pas.
Mais en Ligue 1, sur d'autres matchs, il le siffle. Ouais.
Mais le problème, c'est que le foot, quelle que soit la compétition, les règles du foot restent les mêmes. Donc on ne doit pas avoir un arbitrage différent, sinon ça veut dire qu'on a des attentes envers les arbitres de Ligue 1 qui sont différentes aussi.
Le problème en fait que je trouve, moi, c'est pourquoi ils ne vont pas voir la VAR à chaque fois. C'est toujours un poids, deux mesures. Voilà. Pour Carlos, il va voir la VAR. Pour Boudache, il ne va pas la voir. Quand on remonte les matchs en arrière, Madame Frappard contre Brest, elle ne va pas voir la VAR. Le match contre Lorient, il y a une faute sur Adichaud, on ne va pas voir la VAR. C'est ça en fait. C'est...
À Lyon aussi.
Pourquoi ils ne font pas tout le temps pareil? Des fois, dans l'arbitrage, c'est compliqué, c'est vrai. L'erreur est humaine, mais dans l'action de jeu, c'est rapide, c'est dur. Mais on peut très bien siffler et après voir la VAR, au moins pour tout ce qui est litigieux, quoi, je ne sais pas. Nous, c'est Nice.
Rendez-vous pour la page arbitrage la semaine prochaine. On sera là pour.
J'espère pas.
C'est vrai que c'est la tradition.
On va finir par passer pour des pleureuses, alors que c'est pas le but.
On va parler des matchs du tout.
Affaire à suivre quand même la semaine prochaine. On va parler du contenu de ce Paris FC Nice tout de suite. D'abord avec le chiffre du soir, 28, le nombre de matchs consécutifs sans clean sheet. Donc avec au moins un but encaissé à l'extérieur. Du jamais vu depuis 1980. On était encore sous Giscard à l'époque, je vais vous dire. Nico, il aura manqué beaucoup de choses quand même hier après-midi.
Ouais, il aura manqué beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de déchets techniques, j'ai trouvé. On a manqué même, je trouve, d'énergie par moment. On a été habitué à revenir au score ces dernières semaines. Donc moi, j'y ai cru jusqu'au bout en me disant qu'on allait réussir à faire la différence. Et il a manqué cette lucidité dans les 30 derniers mètres, ce petit brin de folie. Alors après, on pourra aussi parler de certains choix de Claude Puel qui commencent à poser question, je trouve. Mais en tout cas, il a manqué beaucoup trop de choses Quand on affronte une équipe qui joue sa peau comme le Paris FC, qui a été très forte dans les duels, qui n'a pas été impressionnante, mais qui a été, voilà, qui a, dans les valeurs de combat, a été supérieure à l'OGC Nice.
Guillaume, on était habitué à voir l'OGC Nice revenir au score ces derniers temps, contre Brest, contre Montpellier, contre Strasbourg aussi au début de l'année. Ça n'a pas été le cas hier avec un but qui les a, on les a sentis un peu anesthésiés par l'ouverture du score parisien.
Bah exactement, c'est ce que je me disais. La prestation des Niçois là, ce week-end, elle est complètement contraire au dernier match qu'on a pu voir du gym depuis l'arrivée de Claude Puel. Donc est-ce que c'est une erreur de parcours? Attention, parce qu'on n'a plus trop le droit d'en faire. Mmh. Est-ce que c'est le réel niveau de l'équipe? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant à ce niveau-là.
Différence, Stéphane, avec le PFC, est-ce que c'est aussi fait dans l'envie, dans l'état d'esprit? On n'avait pas eu grand-chose à dire de ce point de vue-là sous Claude Puel, mmh. Mais c'est vrai qu'hier, ça a été quand même un petit problème.
Je suis d'accord avec mes deux amis, là. C'est que hier, je pense que c'est le match, pour moi, le moins bon de l'ère Puel, en fait. Autant des défaites encourageantes, autant hier, c'était vraiment très très moyen. Après, il manque des joueurs, il manque Royer en attaque, donc Puel fait encore avec ce qu'il peut. Après, il y a quand même des choix bizarres de composition d'équipe. Un exemple, je ne suis pas entraîneur, mais un exemple. Pourquoi ne pas mettre le petit Everton avec Van Hout en défense, enfin en milieu défensif, et faire monter Sanson d'un cran en 10 et mettre Diop sur le côté? Bon, après, on n'est pas entraîneur, on ne sait pas ce qui se passe. Mais pour moi, hier, c'était le match le plus mauvais de l'ère Puel, quoi. Même le 5-1 contre Toulouse, on a mieux joué.
Petit message quand même à l'attention de Claude Puel, hein, s'il nous regarde ce
soir.
Non,
mais je le respecte,
petit,
tout à fait.
Petit ajustement.
Non, mais c'est un très bon entraîneur, je le respecte. Mais il y a des choix qui commencent à poser des questions. Après, il fait comme il peut, on ne sait pas tout. On ne sait pas les joueurs, voilà.
Mais et puis, on a vu, Stéphane, aussi des joueurs un peu peut-être moins concernés hier contre le Paris FC. On n'avait pas l'habitude de le voir. C'est une hypothèse quand même que Claude Puel, lui, réfute en bloc. Je vous propose de l'écouter.
Ce n'est pas moins d'envie. On ne joue pas au football avec moins d'envie. Il y a toujours énormément d'envie chez mes joueurs. Ils se préparent bien, ils s'entraînent bien. Ils sont à l'écoute, donc c'est pas un manque d'envie. Ça en a été un peu moins bien dans notre expression, un peu moins bien chez certains joueurs, je pense physiquement. Ça manquait de mobilité, de tonicité.
Les Parisiens qui, en tout cas, ont dépassé l'OGC Nice au classement, avaient pris même 2 points d'avance. Auxerre, 16e et barragiste, est à 6 points avec le nul ramené de Lorient. Je vous propose de lire les déclarations d'après-match de Jonathan Clauss au micro de Ligue 1+. Elles sont salées. On s'attend à une fin de saison très compliquée. On va devoir s'accrocher, compter que sur nous et regarder sur les autres. On doit ressortir de là avec un autre gros résultat. Il va falloir mettre un gros signal d'alarme dans ce vestiaire parce que la situation devient très urgente. Nico, elle s'était un peu calmée cette situation avec la victoire à Nantes, la Coupe de France et puis les bonnes prestations aussi contre Monaco, contre Lyon. Là, on peut dire qu'elle redevient critique cette situation.
Ouais, c'est surtout que dans les têtes, je pense que ça devient de plus en plus dur parce que tu pensais être sorti de cette spirale négative et de t'en sentir petit à petit, tu te rends compte que finalement non et que tu as les mêmes problèmes que tu avais il y a quelques mois. Donc on en revient aussi au fait que le problème n'était pas que l'entraîneur. On le voit, hein, Francaise, il marche super bien à Rennes. Donc c'est pas uniquement un problème d'entraîneur. Je pense qu'il y a des joueurs aussi qui sous-performent dans cette équipe.
Lesquels?
Je pense à Morgan Sanson, par exemple. Je pense à Melvin Barre, qui avant sa blessure n'était pas au top et qui là, a du mal aussi à revenir.
Diop aussi.
Diop est moins bien depuis quelques matchs aussi. Kevin Carlos qui ne s'adapte pas. Enfin, ça fait beaucoup d'éléments quand même qui posent question. Et la fin de saison, elle va être très compliquée. Là, on a un calendrier, il me semble, assez difficile qui arrive. Alors on connaît aussi l'OGC Nice, donc on ne va pas trop s'avancer, mais ça commence à devenir très très inquiétant.
Ouais, l'OGC Nice qui a perdu contre les 3 promus cette année, Guillaume, sans certitude au poste de gardien de but, sans Eli Wahi, on l'a dit, encore blessé pour quelques matchs. Elle vous fait peur cette fin de saison?
Peur, oui, un peu quand même, parce que j'ai regardé, hormis l'Olympique Lyonnais, il me semble qu'on doit encore jouer toutes les équipes du top 6, donc ça fait beaucoup de monde, il reste 10 matchs. Et peur aussi parce qu'on a joué contre une équipe parisienne qui normalement est censée être en concurrence avec nous du même niveau ou au moins être une des moins bonnes équipes de ce championnat et qu'on n'a même pas réussi à vraiment les faire peur ou à les démobiliser. Donc oui, ça me fait peur par rapport à ce qu'on a vu ce week-end.
On va faire un petit point gardien avec, avec vous, Stéphane, ce soir, puisque vous n'avez pas mis Maxime Dupé dans vos tops ou dans vos flops juste après. Il est encore fautif sur le but adverse. Ça avait été le cas la semaine dernière contre Lorient, à Toulouse aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec Maxime Dupé? Stop ou encore, en ce qui concerne ce qu'il a fait?
On en parlera après dans les top flops.
Non, parce qu'il n'est pas dans vos top flops, malheureusement.
Oui, mais... Donc on y, c'est on vrai qu'hier, il nous coûte le but. Mais si on regarde les trois arrêts qu'il fait après, dans le match, il fait quand même trois grands arrêts. Que je pense que je n'ai rien contre Diouf, mais si c'est Diouf, bon bref. Pour moi, Maxime Dupé doit rester dans numéro 1 pour l'instant.
Ça suffit pour vous, c'est parade en deuxième mi-temps?
Non, c'est trop tard. C'est toute la difficulté du poste de gardien de but, c'est que tu peux faire un super match, mais si tu fais une erreur, tu la payes cash. Je pense, peut-être que je me trompe hein, et que Claude Puel maintiendra sa confiance à Maxime Dupé, mais je pense que si Evan Diouf sort un bon match à Lorient, il enchaînera derrière parce que Maxime Dupé a fait le travail, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il a quand même aussi fait des matchs où il a manqué d'être décisif. Je pense à Toulouse, il en prend quand même 5, il prend beaucoup de buts et je vois pas la plus-value qu'il nous apporte aujourd'hui à terme.
Avant de passer au top flop, rapide coup d'œil sur le 11 de départ préparé par Claude Puel, toujours en 4-2-3-1. Trois changements à signaler comparé au match de Lorient. Djoumaba remplacé Dante. Melvin Bar reprenait sa place de titulaire à la place d'Ali Abdi sur le côté gauche. Pareil pour Jonathan Clauss, préservé une mi-temps la semaine dernière car malade. C'était Antoine Mendy qui l'avait suppléé. Offensivement, hier, on a eu droit au même changement à la mi-temps. Kevin Carlos remplacé par Kyle Goudage pour décaler Mohamed Ali Chou en 9. Les amis, oui, on en a parlé du coaching de Claude Puel, il vous a pas trop satisfait, on en parlera d'ailleurs dans les top flops tout de suite qui arrive sur Cop Aiglon. Restez bien avec nous. Retour sur le plateau de Cop Aiglon pour revenir sur cette défaite. Un but à zéro concédé sur la pelouse du Paris FC. On va analyser les joueurs au cas par cas, distribuer les bons et les mauvais points de cette rencontre tout de suite dans les top flops. Allez Nico, top flop, on commence par, oh surprise, Kyle Goudage encore une fois.
Alors j'ai hésité entre Kyle Goudage et Djoumaba, parce que je l'ai trouvé très très solide sur son match. Et on l'a suffisamment critiqué pour le valoriser aujourd'hui, mais je me suis dit, on a encore perdu, on a encore pris un but, donc je ne peux pas mettre un défenseur. Et puis j'avais envie de valoriser encore une fois Kyle Goudage. Je comprends le choix de Claude Puel de le mettre sur le banc encore une fois, parce que je pense que c'est sa seule carte sur le banc, sa seule cartouche. Mais là, il montre entrée après entrée qu'il doit être titulaire dans cette équipe, en tout cas avec les absences, et que dès qu'il est sur le terrain, le visage offensif de l'équipe change. On découvre aussi petit à petit une nouvelle facette dans son jeu, cette capacité à rentrer plus intérieur, à lâcher le ballon très rapidement. On parle souvent de lui comme étant un très bon dribbleur, un très bon joueur balle au pied, mais il se déplace également très très bien. Donc c'est aujourd'hui pour moi il doit être titulaire dans cette équipe.
Flop commun avec Guillaume, Tom Louchet ce soir.
Ouais, pareil, j'ai hésité entre Tom Louchet ou même Claude Puel par rapport à ses choix.
Ça aurait été intéressant, Claude Puel.
Ça aurait été intéressant, mais
qu'est-ce que vous lui reprochez à Claude Puel sur la composition qu'on a vue il y a...
Alors déjà, moi, c'est pas des reproches parce qu'on n'est pas au quotidien dans les séances d'entraînement, mais c'est des incompréhensions, notamment liées à la gestion d'Antoine Mendy. Même si, encore une fois, Djoumaba a fait un bon match, Copong monte en puissance, j'ai du mal à comprendre la gestion d'Antoine Mendy depuis son retour de la CAN. C'est peut-être ta plus grosse valeur marchande. De revoir Kevin Carlos en pointe, c'est aussi quelque chose que je ne comprends pas. C'est même plus de la peine que j'ai pour lui là, c'est que il sert plus à rien du tout, et je pense que c'est même handicapant pour lui de le mettre sur le terrain. Donc il y a plein de petits choix comme ça, le double pivot Sanson Van Hout qui est inoffensif. Malheureusement Boudaoui apparemment n'est pas disponible, mais pourquoi pas lancer Everton, tu l'as dit, à la place notamment de Morgan Sanson. Donc il y a plein de petits choix comme ça qui m'interrogent, mais j'ai mis Tom Louchet parce que s'il marque d'entrée, c'est pas le même match et que derrière il a tout raté.
Flop aussi pour la même raison que Nico, Guillaume.
Pas tout à fait, parce que moi je veux pas l'incriminer sur l'occasion qu'il a manqué. Parce que voilà, c'est difficile, ça va vite. On peut pas marquer à tous les coups. Il avait déjà marqué la semaine dernière ou la semaine passée.
Il a à mettre de la cage quand même.
Oui, je sais bien, mais on peut pas marquer toutes les occasions. Moi, là où je lui en veux, c'est sur la globalité de son match avant qu'il sorte. En fait, hormis justement cette occasion, il est invisible. Il est pas dans le jeu. On le voit nulle part. Il fait pas de passe intéressante,
après,
il crée aucun décalage.
À son poste, il dépanne, là, il y a Louchet.
Je sais bien, mais pour autant, on le voit quand même pas. Et il est sur le terrain et il apporte rien au jeu, je trouve. Donc, Donc c'est pas sur l'action, mais c'est sur le match dans sa globalité où moi j'ai un peu du mal.
On sent que Stéphane n'est pas tout à fait d'accord, mais c'est beau parce que son top c'est Melvin Barr. Et c'est ça, hein, si je.
Ah non,
pas...
Non.
Ah, non, pas du tout.
Mon top.
Oui, ah mon non, top, c'est Jonathan Clauss, c'est, oui, ça, c'est ça, Stéphane. C'est moi qui me suis embrouillé les pinceaux. Le top, en tout cas, votre top, c'est Melvin Barr ce soir.
Oui, j'ai mis Melvin Barr un peu par élimination, parce que pour être honnête, pour moi, il n'y avait pas vraiment de top. Je l'ai mis parce qu'il revient de blessure. Et pendant ce temps, c'était Ali Abdi qui l'a remplacé. Et je trouve qu'on voit la différence entre Abdi et Barr. Il amène quand même plus de sérénité. Bon, il n'a rien inventé, hein. Il n'a pas fait de folie, mais il a tenu son couloir. Et d'ailleurs, si on regarde la majorité des occasions, elles se font du côté de Jonathan Clauss. Et lui, il n'a pas beaucoup laissé passer de son côté.
Stéphane, vos top flops ce soir, Jonathan Clauss, on le disait en top.
Jonathan Clauss, parce que je trouve que depuis l'épisode où c'est qu'il a prolongé, je trouve qu'il s'est bien remis dans la tête à l'endroit. Et je pense que sur tous les matchs, on ne peut rien lui reprocher. Il fait beaucoup de centres, il grappille beaucoup de ballons. Et d'ailleurs, je me demande, je ne suis pas encore coach, mais pourquoi, vu qu'on n'a pas beaucoup d'attaquants en ce moment, pourquoi ne pas essayer de mettre un match Clauss ailier droit, chaud en pointe, et mettre Mendy arrière droit. Pourquoi pas essayer? C'est une solution aussi qui peut se tenter. Donc mon top, c'est Jonathan Clauss. Encore beaucoup de centres, beaucoup d'investigation, enfin d'intensité.
Qui croyait toujours à la Coupe du Monde, hein. Il a dit bien sûr que je postule, j'ai ça en tête à chaque week-end, c'est ce qu'il a déclaré à Canal. Messieurs, Jonathan Clauss à la Coupe du Monde, vous y croyez?
Non, enfin.
Pas du tout.
J'y crois pas parce que c'est Didier Deschamps le sélectionneur je pense qu'il a déjà la majorité de son groupe qui est faite et qu'avec Jules Koundé et Molo Gusto, il a déjà ses deux latéral droits. Mais en tout cas, comme l'a très bien dit Stéphane, c'est le seul joueur de très haut niveau dans cette équipe et qui est capable d'aller tutoyer le gratin. Donc il est irréprochable en dehors et sur le terrain depuis plusieurs semaines. Et donc c'est quand même à mettre en lumière.
Oh. Ouais.
Complètement d'accord.
Il a tout dit, Nico. On revient sur votre flop, Stéphane. Kevin Carlos, bon, après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus?
Le flop, je vous avais dit l'attaquant général, mais s'il faut aussi bien un joueur, c'est Kevin Carlos. Voilà, c'est malheureux de l'accabler. Mais je pense qu'il faut qu'il arrête le football. Je pense sincèrement, j'ai même de la peine pour lui. Je me demande qu'est-ce qu'il fait sur le terrain. Quoi. On l'a payé 6 millions d'euros. Quand on voit le prix de Carlos, le prix de Johnson, ça faisait 13 millions d'euros, on pouvait prendre un bon joueur. Là, je pense qu'il nous handicape plus qu'autre chose. Quoi.
Il ne voit pas le bout du tunnel, Kevin Carlos. Hein, et pourtant, on lui redonne des minutes.
Ouais. Il ne fait rien pour.
C'est...
Non, Kevin Carlos ne sera pas non plus son match face au Paris FC. On ne sait pas trop ce qui va devenir l'Espagnol à l'USC. C'est pour l'instant, ça ne fonctionne pas, les amis. On l'a vu, il est 19h23. On rentre dans le traditionnel de cette émission. Et tout de suite, comme vous le savez si bien, c'est le Focus. Focus spécial quart de finale de Coupe de France. OGC Nice se déplace chez le 10e de Ligue 1, le FC Lorient, mercredi soir à 20h30. La dernière chance de vibrer cette saison avant de se reconcentrer sur la mission maintien. Les joueurs d'Olivier Pantaloni sur une série de 6 victoires sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et d'une seule défaite concédée depuis le 2 novembre. Messieurs, la question est simple du Focus. Voyez-vous le gym arracher sa qualification? Oui, non, et après, on en parle. IM,
non.
Oui.
Nico?
Oui.
De oui contre. Ah non, allez Guillaume, pourquoi l'OGC Nice va pas se qualifier pour les demi-finales de Coupe?
Alors, j'espère me tromper, mais là sur les 7 derniers matchs, Nice n'a gagné qu'une seule fois. Je crois que c'est ça. Nice est en perdition quand même, a du mal à avancer, a eu un petit coup d'accélérateur à l'arrivée de Claude Puel, mais fait quand même beaucoup de surplace. Lorient est une équipe très dynamique, à qui tout réussit. C'est comme ça, il y a des saisons, ça arrive, il y a des équipes à qui tout réussit, mais c'est pas vraiment du hasard, il y a du travail, il y a de la motivation, et justement Lorient, je trouve que cette saison fait partie de ces équipes-là, et pour moi, Lorient...
Ils sont favoris mercredi?
Lorient?
Ouais.
Ah bah bien sûr, Lorient est 10e au championnat, Lorient n'a perdu qu'une seule fois, tu disais, depuis 2 mois, donc pour moi...
Une défaite cette saison au Moustoir, cette saison, 7 ans, bon, elle a été lourde face à Lille, mais comme dit l'adage, mieux vaut prendre 7 buts une seule fois que cette fois 1-0 pour les Lorientais. Nico, l'OGC Nice va s'imposer, ou en tout cas gagner au tir au but peut-être, et faire partie des demi-finales de Coupe de France.
Oui, parce que je vois cette équipe quand même revancharde, par rapport au scénario du match qu'il y a la semaine dernière ou celle d'avant, je ne sais plus. par rapport à la Coupe d'Europe, par rapport à cette saison ratée en championnat. Et parce que je pense que les joueurs ont besoin aussi de cette compétition comme un peu un bol d'air, de l'oxygène là, dans une saison où on en manque cruellement. Lorient est une belle équipe, tu l'as bien dit, mais c'est pas imbattable, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Après, c'est vrai qu'à l'extérieur, on a du mal. C'est le seul petit point qui m'inquiète. Mais encore une fois, la Coupe de France est une compétition à part. On a vu des surprises sur les tours précédents. Donc ça fait mal de se dire que le GC Nice n'est pas favori face au FC Lorient. C'est quand même assez incroyable de se dire ça. Mais j'y crois quand même.
Steph, là aussi, vous y croyez?
Alors moi j'y crois. Nino, t'as tout dit ce que je voulais dire quasiment.
Pardon.
Voilà, moi ce que je voulais dire, c'est que c'est notre compétition. C'est rien à voir que le championnat. Donc je pense que Puel, il va trouver les mots. Les gars, là, c'est autre chose. Il ne faut plus penser au championnat. Là. C'est un autre match. On peut même faire 0-0 gagner au tir au but. Donc moi j'y crois. Franchement, j'y crois. On n'est pas favori, tant mieux. Et comme j'avais dit, peut-être un autre pathos à la radio,
ouais, ouais.
Si on finit 15e cette année, qu'on va en finale et qu'on la gagne, moi ça me va très bien. Voilà, 15e et qu'on va en finale. Après, il reste des gros morceaux. Mais non, mais franchement, moi oui. Surtout qui me fait peur, c'est qu'il n'y aura pas Diop.
Ouais.
Suspendu.
Aussi. Ça, c'est évidemment une épine dans le pied de Claude Puel. Dernière petite question, les amis. Le Gym qui affrontera ensuite Rennes dimanche à 17h15 pour les retrouver avec Francaise. Match très important dans la mission maintien. Pour autant, on ose espérer ici, Nico, que Claude Puel aura appris la leçon de Montpellier. Est-ce qu'il serait capable de faire tourner, selon vous, contre Lorient?
Oui. Il sera. Alors, je ne pense pas qu'il fera la même erreur de changer les trois quarts de l'équipe, mais il y aura forcément du turnover. Ça, c'est évident, de par les absences. Je pense que le gardien aussi ne sera pas le même. Après, je pense qu'il conservera quand même une base solide parce qu'il a compris que c'était un objectif prioritaire pour le club.
D'autant plus que depuis qu'il est arrivé, il répète sans cesse que le principal objectif, c'est le maintien du club et qu'il est venu dans une mission qui est celle-là. Donc j'ai l'impression qu'il part pour faire tourner face à Lorient.
Dernier mot avec vous Stéphane, un mot sur les retrouvailles avec Francaise quand même ce dimanche pour Nice-Rennes. 3 matchs, 3 victoires pour l'ancien entraîneur de l'OGC Nice. On a l'impression que le projet de Rennes est un peu plus taillé pour lui à Francaise. Qu'est-ce que vous en pensez?
Déjà ils n'ont pas le même effectif que nous quand même. Ils ont un effectif supérieur qualitativement. Et après, je pense qu'au niveau des retrouvailles, je pense que les joueurs de Nice vont être revanchards envers Francaise, je pense. Après, moi, j'ai rien contre Francaise. Ouais. Hein. Moi, j'aurais bien. Voilà. C'est un très bon entraîneur. Mais je pense que certains journalistes vont être revanchards envers lui. Donc, j'espère que ça va les motiver deux fois plus.
On verra ça dimanche. Avant de se quitter, on regarde quand même. On jette un petit coup d'œil sur le classement de cette Ligue 1 avec ce mano à mano entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Avantage PSG avec désormais 4 points qui séparent les deux formations. Podium complété par l'Olympique Lyonnais à 45 unités, talonné maintenant par l'Olympique de Marseille à 43. On retrouve l'OGC Nice incrusté dans la deuxième partie de tableau à la 15e place avec 24 points. 6 de plus désormais que le barragiste Auxerrois. Nantes et Metz ferment la marche. Quelle va être la suite pour l'OGC Nice? On va s'y intéresser dans un instant avec le calendrier du Gym. Déplacement à venir ce mercredi à 20h30, on l'a dit sur la pelouse du FC Lorient en quart de finale de Coupe de France. Suite du championnat dimanche à 17h15 avec Nice-Rennes, Angers à l'extérieur le 14 mars et Paris à domicile le week-end du 21. Clôturons le calendrier du mois de mars. Merci messieurs de m'avoir accompagné ce soir. C'est la fin de ce COP Aiglon.
C'est un bonjour ou pas?
Un petit bonjour.
Oui, un petit bonjour.
Très très rapide.
Alors, un bonjour à Sylvain,
oui,
qui est un ami, qui regarde l'émission tous les lundis, qui va au stade aussi. Voilà.
Très bien, on embrasse.
Il se reconnaîtra.
On embrasse Sylvain. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 19h sur BFM Nice Côte d'Azur. Passez une très bonne semaine. Bye bye.